Le verset de base sur lequel je voudrais, avec lequel je voudrais commencer, Jean 14, verset 19. Jean 14, verset 19. Jésus parle à ses disciples. Il nous parle à nous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Et aujourd'hui, le monde ne connaît pas Jésus, le monde ne voit pas Jésus. Et pourtant, il est à la droite de Dieu, toute autorité lui sont soumises. Il est au-dessus de tout nom, déjà aujourd'hui, un nom glorieux, un Seigneur glorieux, mais rejeté. Ça me fait penser aux hommes de David. Vous savez, c'est hors la loi qui ont marché avec David de caverne en caverne, de montagne en montagne. Poursuivi par Saül, suivant le roi oint par Dieu, mais rejeté. Et nous, nous sommes là. Le Seigneur est rejeté et nous le suivons dans son rejet. Le monde ne le voit pas. Et regardez bien. Verset 19. Le monde ne me verra plus, mais vous, ça, c'est nous. Vous me verrez. Et notre problème, c'est qu'on ne voit pas le Seigneur. Il n'est pas là. Physiquement pas là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, écoutez, je vous ai décrit dans les 13 premiers versets la beauté de Christ, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, nous sommes adoptés. Et à la fin, verset 15, il dit, mais écoutez, depuis que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu et de prier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors qu'au verset 13, il nous dit que nous avons les arts de l'esprit. Ce n'est pas la même chose. Afin que les yeux de votre cœur, selon les versions, soient éclairés ou illuminés. Pour trois choses. Un, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui est liée à votre appel. Parce que nous avons été appelés, je l'ai dit hier. Ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Nous sommes tous appelés. Pourquoi êtes-vous là? Parce que vous êtes appelés. Là, vous l'avez entendu quand même. Vous êtes passé de la mort à la vie. Il vous a appelé. Et à cet appel est liée une espérance. C'est-à-dire, l'espérance biblique, ce n'est pas peut-être, c'est certain. Et c'est ça qui est extraordinaire. À notre appel est liée une certitude. Et là, il faut que nos cœurs soient touchés, que les yeux de notre cœur soient ouverts, parce que nous sommes frappés de cécité. On oublie notre appel. Et nous ne sommes pas appelés juste pour avoir un passeport pour aller au ciel. Et ça, c'est notre problème à nous qui sommes nés dans des familles chrétiennes. C'est un privilège, encore une fois, béni soit le Seigneur, parce que nous sommes nés, pour beaucoup d'entre nous, dans des familles chrétiennes. Et c'est un immense, oui, privilège, je viens de le dire. Il ne faut pas qu'on perde ce privilège. Mais on aurait tendance à adhérer, vous comprenez ce que je suis en train de dire, à adhérer à la vérité du salut pour échapper à l'enfer, c'est-à-dire avoir un passeport et puis on est bon quoi. C'est pas ça le salut. Quand est-ce que la dernière fois vous vous êtes repenti de votre péché? La vie d'un chrétien commence par la repentance, c'est-à-dire je m'aperçois que je suis en train de me noyer. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, j'en ai fait l'expérience une fois à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Je suis un bon nageur, j'étais un bon nageur. Et je me suis un peu éloigné, dimanche après-midi, on était en famille, tranquille. Et puis à un moment donné, je voulais revenir, mais le courant m'a apporté. Et là, je me dis, bon, calme-toi. Tu sais comment faire, pas de panique, tu fais les mouvements comme il faut, mais rien à faire, le courant était plus fort. Et là, je voyais que ma force, ça me nuisait, et là, j'avais deux options. Soit je ne disais rien, parce qu'un homme quand même, il est fort, il ne peut pas demander de l'aide comme ça, quoi. Et mes enfants aussi. Puis je m'étais bien targué que j'étais un bon nageur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ou bien je m'asseyais sur mon orgueil et j'appelais au secours. C'est ce que j'ai fait. Et je suis là aujourd'hui. On m'a sauvé. Mais j'ai eu ce moment d'angoisse et de panique. Parce que je dis, là, mes forces me manquent. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que des fois, je me demande si nous, enfants de chrétiens, on a su ce que c'était que la repentance. C'est-à-dire, je suis perdu devant le Dieu trois fois saint et il m'a tant aimé, celui-même qui n'a pas épargné son propre fils. Et il nous a sauvés. Mais la repentance, c'est-à-dire reconnaître que je suis dans un état, dans tel état. Et il nous a sauvés. Et en fait, la vie d'un chrétien commence par la repentance et va continuer par la repentance toute sa vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que je n'ai jamais eu autant conscience de mon péché qu'aujourd'hui. Jean chapitre 14, verset 19. « Mais vous me verrez. » Et ce verbe, vous me verrez, c'est vous commencez à me voir et vous continuerez à me voir. Ça c'est extraordinaire. Vous me verrez. Il y a des expressions comme ça dans la parole. Voir Jésus. Et je ne sais pas comment vous représentez de voir Jésus. Mais vous me verrez. C'est une vie. Et mon verset préféré, le voilà. Parce que moi, je vis, dit Jésus, vous aussi, vous vivrez. Le point de départ de cette réunion, elle est là. Se trouve là. C'est quel genre de vie vous désirez avoir? Quel genre de foi vous désirez avoir? Mon objectif ce soir, ce n'est pas de faire un enseignement complet ou même approchant sur le combat spirituel et nos ressources que nous avons en Christ. C'est de dire certaines choses. Mais mon objectif, c'est de compter sur le Seigneur pour que chacune dans notre vie, chacun de nous puissions dire « Seigneur, tu m'as racheté et tu vis et moi je veux vivre à toi, je veux vivre de cette vie que tu me promets. Parce que moi je vis, dit Jésus, vous allez vivre une vraie vie pleine de sens et porter des fruits qui demeurent. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Autant que nous sommes ici. Des plus jeunes, toute votre énergie tous vos talents, toute votre intelligence, tout ce que Dieu vous a donné, ne l'enterrez pas. Vous allez vous enterrer avec. Et puis, pour nous les plus âgés, qui connaissons le Seigneur, revenir à une foi basique en notre Père Céleste, comprendre cette intimité n'a rien de pénible, que les commandements de Dieu n'a rien de pénible. Pourquoi ? Parce que notre cœur est pris. Notre cœur est pris. Alors les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Je vous raconte juste cette histoire. J'ai un ami, 50 ans de mariage. Alors, il se prépare, il achète des fleurs, quelque chose de conséquent, ça coûte cher. Et puis, il sonne à la porte de chez lui, et sa femme ouvre, et lui dit, mais Jean, pourquoi tu ne rentres pas ? Et tadam ! Elle dit, oh Jean, bon anniversaire de mariage. Oh Jean, ça me fait tellement plaisir. Oui, dit-il, j'ai lu dans un livre que quand on a 50 ans de mariage, c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, entre garder les commandements de Dieu, si le cœur n'est pas engagé, et toutes les dames là ont réagi fort, ça ne vous plaît pas. C'est là exactement ce que je voulais faire comprendre. Si notre cœur n'est pas engagé, ça ne marche pas. Mais ce qui est extraordinaire, nous tous, nous désirons une vie qui compte. Et le Seigneur nous le promet. Parce que moi je vis, vous allez vivre. À condition, il y a des conditions, à condition que vous puissiez entendre et recevoir ma parole. Mais plus que ça, à condition que vous preniez le temps nécessaire pour investir dans la relation avec le Père et avec moi. Parce que nous qui sommes enfants de Dieu, notre communion est avec qui ? Avec le Père et son Fils Jésus. Souvent j'entends dire, oui, si notre communion avec Dieu est bonne, ça n'existe pas ça. Ou bien il y a une ombre et il faut la régler, et là elle sera bonne. Mais le but de Dieu, c'est que les choses passent, la relation passe. J'ai laissé des papiers pour que nous puissions suivre ce que j'ai préparé et ce que je vais vous dire. Et dans cette introduction, suite à la rencontre de hier, j'avais conclu que, pour la réunion de hier, j'avais conclu que nous ne sommes plus condamnables. En prenant ce texte de Colossiens, chapitre 2, verset 13, nous ne sommes plus condamnables et Christ a vaincu l'ennemi en ce qu'il lui a retiré son pouvoir de condamnation. Mais il n'a pas retiré son pouvoir de mensonge. Bien différent. Et comme ça, il va essayer de reprendre autorité sur nous. Il ne peut pas nous reprendre et nous arracher de la main du Père. Ça, ce n'est pas possible. Mais de nous influencer pour que nous ne marchions pas dans le chemin qui est tracé, ça, il va faire tout et tout. Pourquoi ? Parce qu'il a la haine de Dieu, il a la haine de l'Évangile, il a la haine de Jésus-Christ, il a la haine de vous et de moi. Et il va tout faire pour que nous ne rentrions pas dans notre destinée. Et dans toute la Bible, c'est mon introduction, dans toute la Bible, nous voyons ce combat. Hier, j'ai mentionné que Satan n'est pas Dieu. Et Satan n'est même pas comparable. Ce n'est pas deux superpuissances qui s'opposent. Satan est un être créé qui est déchu et a entraîné avec lui l'humanité. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et s'est étendu à tous les hommes. Ah, vous allez dire, c'est pas juste quand même. Nous, on paye les pots cassés pour lui qui s'est laissé séduire. Et c'est comme un chauffeur de bus. Nous sommes dans le bus. Il boit un coup de trop, il va dans le ravin. Et c'est nous qui sommes blessés et tués. Mais voilà, c'est ça. C'est l'idée de Paul dans Romains chapitre 5 au verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et s'est étendu à tous les hommes. La malédiction, l'autorité sur les hommes. Et il va utiliser son réseau, bien sûr, et certaines choses aussi. L'objectif de Satan, tout faire pour nous détourner de cette vie d'intimité que le Père désire tellement avoir avec nous. Une vie d'intimité. Dieu n'est pas dans la religion. Même quand le culte est bien, même c'est le cœur qui veut. C'est cette intimité. Qu'est-ce qui compte dans un mariage ? Que c'est... Nous sommes sauvés, n'est-ce pas ? Je vais faire une analogie. Vous connaissez la différence entre le mariage et la mariation ? Non, c'est un mot que je viens d'inventer. Le mariage. On a célébré le mariage le samedi d'un jeune frère à Mulhouse. Il est passé devant le maire, il est marié. Ils sont venus tous les deux et le maire a posé des questions, les questions traditionnelles, vous les connaissez. Ils ont tous les deux répondu oui et le maire a dit « Je vous déclare mari et femme ». Et qu'est-ce qu'ils connaissent du mariage ? Rien du tout. Rien du tout. La mariation, c'est quoi ? La mariation, c'est grandir dans le mariage, c'est travailler à la relation. C'est laisser progressivement notre vie de célibataire pour vivre avec celle ou celui que j'ai épousé et grandir dans le mariage. Ça prend combien de temps ? Ça prend une vie. Et qu'est-ce qui va être le plus important ? Ça va être la relation. Un mariage sans relation, c'est misérable. Mais ça se travaille, ça. Je parle ça comme ça. C'est pas pour vous que je dis ça, c'est juste comme ça. Mais ça demande de l'investissement, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande un planning, ça demande une discipline, ça demande de faire des choix. Je dis ça, mais je ne parle pas de mariage, je parle de notre relation à Dieu. C'est ça. Et Satan ne va pas supporter ça. Et donc, il va tout faire pour nous en empêcher. Et il va déployer tous ses efforts pour nous faire croire, si possible, que lui est capable, d'une façon beaucoup plus intéressante, est capable de satisfaire nos cœurs. Et il va y arriver. C'est une question de plaisir. Qui a inventé le plaisir ? C'est Dieu qui a inventé le plaisir. Et il y a des plaisirs à sa main droite, de son côté droit, pour toujours, psaume 16, des plaisirs à son côté pour toujours. Et nous devons, quand nous prenons ce plaisir-là, les autres plaisirs, vont disparaître parce que ce plaisir va être supérieur. C'est pour ça que j'ai commencé par vous poser la question, est-ce que vous êtes vraiment sauvé ? Dans le sens, est-ce que vous avez réalisé de quoi vous avez été sauvé ? Et qui vous a sauvé ? Parce que si on réalise ça, mais on va aimer Jésus. Écoutez, on a eu une histoire en France cette année où il y a eu cette prise d'otage avec le colonel Beltrame. Il y a eu cette prise d'otage et où il a remplacé il a pris la place de cette femme qui allait probablement être tuée. Et cette femme, et lui-même a été tué pour l'amour. Voilà, pour l'amour, il s'est donné, je ne veux pas aller plus loin que ça. Mais je vous pose la question, cette femme-là, elle a été sauvée d'une façon temporelle, ponctuelle. Qui elle remercie aujourd'hui? Il est mort! Il est mort! Elle peut aller sur sa tombe tous les jours. Mais tous les jours, elle pense, quelqu'un a pris ma place. C'est ça le sacrifice du Seigneur, à une échelle évidemment divine. Mais lui, il est vivant pour toujours. Et si notre cœur ne comprend pas ça, on n'aura pas de plaisir en lui et tout le reste qui en découle. Alors, qu'est-ce que va faire Satan pour nous empêcher de nous approcher de Dieu et pour nous empêcher d'avoir du plaisir dans cette relation avec lui. Et son acharnement, c'est d'extirper notre foi que nous avons placée en Christ. Il va tout faire pour l'enlever. Je vous le dis encore une fois, il ne peut pas nous ravir de la main du Père. Nous appartenons à Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et c'est très beau parce que il semble que ça veut dire nous sommes le poème de Dieu ou l'édifice de Dieu ou le chef-d'œuvre de Dieu. Il nous a créés dans le Christ Jésus. Je reviens là-dessus parce que c'est tellement réconfortant. Et maintenant, Satan, lui, va essayer de nous enlever la foi. Je propose le verset de Luc, chapitre 22, verset 31, où le Seigneur dit « Simon, Simon !» Écoutez bien, parce que le thème, c'est le combat spirituel. Et c'est dans les pensées que ça se passe. Je l'ai dit hier, le combat se passe dans les pensées, principalement. Voici Satan, donc c'est bien une réalité, vous a demandé à vous avoir pour vous cribler comme les blés. Alors, ici, on est dans une terre de campagne. Nos anciens savent ce que c'est que cribler le blé. C'est-à-dire, c'est le battre abondamment pour séparer la graine de la balle. Mais le blé est fortement battu. Et le diable va nous réclamer auprès de Dieu pour nous cribler. Et le Seigneur ne dit pas « je vais l'empêcher de le faire ». Parce que le Seigneur n'est pas dépassé par cette demande. Il va utiliser cette demande pour la formation de Pierre. Regardez bien. « Mais moi, j'ai prié pour toi. » L'intercession de Christ aujourd'hui. Jésus prie pour vous, pour moi. Et parfois, je me retrouve à lui dire dans des situations difficiles, oh, mais Seigneur, dans des situations de tentation. Je ne sais pas si je suis tout seul à être tenté, mais dans des situations, Seigneur, mais prie pour moi, n'oublie pas d'intercéder pour moi. Je dépends de toi uniquement. Je ne suis pas sûr que ce soit pleinement biblique de dire ça, mais je le dis. Mais moi, j'ai prié pour toi. Il y a plusieurs choses que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui pour nous. Ce qu'il a fait pour nous déjà, c'est qu'il nous a révélé le nom du Père quand il est venu sur le ciel. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il nous révèle le nom du Père dans nos circonstances. À quoi servent nos circonstances difficiles ? Que nous puissions, la réponse, que nous puissions découvrir qui est le Père. Celui qui guérit, celui qui pourvoit, celui qui console, celui qui accompagne, celui qui délivre. Et puis, une autre chose que fait le Seigneur Jésus-Christ, c'est de prier pour nous, afin que ta foi ne défaille pas. Et si vous vous trouvez dans des situations tellement complexes, tellement difficiles, qui vous dépassent, qui vous ravagent, semble-t-il qu'il n'y a plus d'espérance, sachez que Jésus prie pour vous afin que votre foi ne défaille pas. Et votre foi ne va pas défaillir. C'est une certitude parce qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, le vivant. Et regardez bien, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, une fois que tu seras revenu, c'est pas si tu reviens, il n'y a pas de doute, tu vas revenir. Et nous croyons, nous allons persévérer jusqu'à la fin. Fortifie tes frères. Ce que le diable veut faire, c'est tellement nous bousculer, c'est qu'on perde confiance. Et là, on dépend du Seigneur. Si ce n'était pas toi qui me porte, je ne sais pas où je serais. Chacun d'entre nous, nous pouvons dire ça, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, nous avons nos épreuves. Je pense que personne ici peut dire « j'ai pas d'épreuve ». Je passe à travers les gouttes. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, je crois. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Il dit « attention ». Soyez sobre, ça veut dire, en tout cas, buvez pas trop de vin, ça c'est une chose, mais soyez sobre, c'est peut-être beaucoup plus large. Ne vous laissez pas accaparer, veillez. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous. Il cherche une faille, il cherche un moyen pour vous dépouiller de cette foi et cette confiance que vous avez en Jésus-Christ. Qui il pourra dévorer? Il ne dit pas qu'il le dévore, mais il va chercher, il va tout faire. Résistez-lui. Comment? Comment on lui résiste? Il y a plusieurs manières de résister au diable. Résistez-lui en étant ferme dans la foi. La foi en quoi? On va le voir plus tard. La foi en quoi? La foi dans la vérité. Parce que c'est la vérité qui va nous affranchir de cette crainte, de cette peur. C'est la vérité qui nous affranchit de nos mauvaises, des pensées qui sont erronées, d'une vision du monde erronée. Je vous propose quatre domaines de prédilection qui sont chers à Satan pour essayer de nous troubler et que nous n'atteignions pas l'objectif de nos vies. Qu'il ne veut pas que la vie de Christ puisse être tellement vue, que nous dégagions le parfum de Christ autour de nous. Il en a horreur. Il faut bien comprendre que la guerre, elle est là. Elle est dans la haine, elle est dans la méchanceté. Et donc, il va utiliser le monde. Le monde, c'est un... On ne va pas parler du monde. Ouais, ça, c'est le monde. C'est comme quand vous dites les gens. C'est personne, en fait, le monde. C'est... Le monde est un système bien organisé, bien huilé, qui est conduit par certaines anti-valeurs, comme l'amour de l'argent, comme le sexe, et d'autres choses encore. Et le monde, on peut lire dans Éphésiens chapitre 2, nous... Parce que les choses sont bien décrites là. Chapitre 2, au verset 2, Nous-mêmes, nous avons marché autrefois selon le train de ce monde. Un autre mot pour train. L'esprit du monde, selon la démarche du monde, selon l'élan du monde. Un. Deux. Selon le chef de l'autorité de l'air. Qui c'est ça? C'est Satan. Trois. De l'esprit qui opère maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, dans les fils de la désobéissance, lesquels nous étions aussi autrefois. Le monde, donc, c'est un système organisé qu'on retrouve dans toutes les sociétés du monde, dans toutes les sociétés sur la Terre, sous des formes différentes, mais le principe est le même. Et l'idée, c'est vraiment de satisfaire nos besoins fondamentaux de nos personnes, de notre être, n'est-ce pas? Notamment la personne intérieure. On ne peut pas vivre sans amour. On ne peut pas vivre sans être accepté. On ne peut pas vivre sans être reconnu. On ne peut pas vivre sans sécurité. Et on a besoin d'attention. Au moins ces cinq-là, retenez-les. Parce que c'est Dieu qui a créé, en nous créant, qui a créé ces besoins. Et Dieu voulait être la source par sa présence, par son regard, par une parole. Il voulait satisfaire nos besoins. Nous, on s'est détournés. Les besoins sont restés, la source n'était plus là. Donc le monde va nous proposer des fausses équations. On a besoin d'un sentiment de valeur. Comment le monde va-t-il s'y prendre pour satisfaire notre besoin de valeur? On va être... Si je suis dans la performance, si je peux faire les choses de telle manière que je vais être admiré, si j'y mets un peu de talent, alors on va m'accepter et je vais avoir de la valeur. Les gens vont me voir ma valeur et là, je vais être satisfait. Et ça va marcher. Combien de temps? Un temps. Mon beau-père, par exemple, 90 ans, catholique, sa valeur, il était reconnu pour le travail qu'il fournissait. Très bon travailleur, il avait son entreprise, il a donné sa vie à son travail. Pourquoi faire? Parce qu'il avait besoin de valeur. Le problème, c'est que l'âge avançant, il s'est rendu compte qu'il avait posé l'échelle de sa vie sur un mauvais mur. Le mur s'est écroulé. Il est où? Il est prostré sur son canapé avec une haine parce qu'il s'aperçoit qu'il a raté sa vie. J'étais dans une assemblée une fois, puis il y a un frère qui 80 ans, il me dit, ah mais toi tu voyages en Afrique, tu vas annoncer la parole, je connais bien l'Afrique, j'ai fait toute l'Afrique là pour ma compagnie et tout ça. Et puis tout à coup il y a eu une tristesse dans son cœur et il dit, jamais je n'ai présenté le Seigneur, jamais je n'ai parlé de Jésus, j'ai juste vendu mes affaires. Il avait 80 ans, un grand moment de regret. Ce que je suis en train de dire, c'est où vous mettez votre valeur. Et vous pouvez avoir tous les diplômes du monde. Je vous dis, je suis diplômé, je suis ingénieur, je suis... Et c'est bon, tout est bon. Moi, j'ai appris ça. Je suis pilote, j'étais pilote d'avion. 4 barrettes ici, ça veut dire commandant de bord. Je passais dans les aéroports, les soldats qui se mettent au garde à vous. C'est pas de la valeur, ça. Mais le jour où on m'a pris On m'a pris ma licence. J'étais qui? C'est ça. Faut pas se tromper. Là où on met notre, là où on pose notre échelle. Vous voulez de la sécurité? Alors on va faire tout pour avoir de la sécurité. L'argent, les relations, tout ça. Ça va marcher un temps. Mais à un moment donné, ça ne marche plus. Parce que, on le sait, ça peut s'écrouler d'un moment à l'autre. Donc, le monde nous propose des ersatz, des remplacements, nous propose des fausses équations. Une autre chose que le monde nous propose, c'est qu'il peint une fausse réalité, une image fausse de ce qu'est la réalité. On en a un petit peu parlé hier très, très brièvement, mais elle est fausse cette image. Quand le monde a convaincu nos contemporains qu'après la mort, il n'y a plus rien. Merci certains philosophes qui ont contaminé des générations de jeunes avec cette idée que c'est le néant. Ça a enlevé toute espérance, ça c'est une chose. Mais nos contemporains sont convaincus du plus grand mensonge. Ils vont dans la mort sans savoir qu'après la mort, il y a le jugement. C'est une image fausse de la réalité. Juste en passant, nos contemporains, les êtres humains sur la Terre, est-ce que ce sont des êtres éternels? Oui, non. Qu'est-ce que vous avez entendu l'autre jour quand notre frère cambodgien a dit « il y a 3 milliards de bouddhistes qui se vouent aux esprits, ils ont tellement... » soit, et ils ne connaissent pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ça vous a fait quoi dans votre cœur? Rien. Moi, ça me bouleverse. On ne peut pas porter le monde entier, mais on peut se laisser bouleverser. Bouleverser. Par le fait que, après, Dieu est juste et fera comme il veut. Mais l'appel missionnaire, c'est pour aujourd'hui. Troisièmement, le monde nous propose des amalgames, c'est-à-dire des compromis. Tu crois cela? Tu crois l'évangile? Oui, ben, d'accord, tu peux le croire, mais n'abandonne pas tes croyances d'avant. Là, nous, on voit ça avec Pascal, on voit ça en Afrique, mais et partout. On pense que l'Église africaine est très forte parce qu'il y a beaucoup de monde. Nous, on pleure, parce qu'ils ont vécu dans le paganisme, dans l'animisme, ils ont fait toutes sortes d'incantations, ils sont donnés, ils ont fait des rites d'initiation diabolique, et ils se convertissent, mais comme il n'y a pas de repentance, on garde ces choses et on ajoute Jésus-Christ, comme un peu les Grecs, n'est-ce pas? Au Dieu inconnu, un de plus, c'est pas grave. Ça peut pas nuire. Ça peut juste augmenter la puissance. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Donc ce sont des amalgames, parce qu'on n'a pas accompagné nos frères et nos sœurs à régler leurs croyances, les fausses croyances qu'ils avaient quand ils sont venus au Seigneur Jésus-Christ. Le monde a rejeté le Seigneur. Et le Seigneur a dit, s'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront aussi. Est-ce qu'on a avoir peur du monde? En tournant vers 1 Jean chapitre 5, où il est dit, c'est ici, verset 4, Parce que tout ce qui est né de Dieu, ça c'est nous. Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Ne craignons pas le monde. Le monde ne va pas mourir. Je vais en parler après. C'est comme le péché, comme Satan, il ne va pas mourir. Mais nous sommes victorieux du monde. C'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. La foi en qui ? La foi en Christ. Mais la foi en quoi ? La foi en la vérité. Ce que le monde vous propose, il nous faut opposer la vérité. Pour opposer la vérité, il faut la connaître. Mais il ne faut pas y adhérer seulement, il faut se l'approprier, la vérité. La deuxième chose, c'est que la deuxième chose que Satan utilise, c'est la chair. Alors, je ne vais pas faire un exposé sur ce qu'est la chair. Je vais simplement dire que la chair, c'est toutes ces habitudes que nous avons développées pour notre survie sans Dieu. Toutes nos habitudes. Et quand nous nous sommes convertis, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons un nouveau cœur. L'Esprit de Dieu nous habite. Mais personne n'a effacé nos habitudes. C'est-à-dire ce qui était nos habitudes de survie, nos kits de survie. Donc, on vient au Seigneur, on croit que c'est magique, toutes choses sont faites nouvelles, nous dit la Bible, on croit que c'est magique, ça nous tombe dessus. Or, ça ne nous tombe pas dessus. Il faudra maintenant, comme je disais hier, déshabiller pour nous rhabiller. Enlever un vêtement. Un vêtement qui nous dérange maintenant pour revêtir Christ, Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Donc, la chair, c'est notre ancien style de vie pour se dépatouiller, se débrouiller nous-mêmes par nos propres forces parce qu'on n'avait pas d'autre moyen de le faire. Et ça, ça va nous poursuivre dans la vie chrétienne et ça va beaucoup nous handicaper jusqu'au moment où on va comprendre que sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Alors, Satan va utiliser le péché, puis la loi du péché. Et là, écoutez, autant nous avons reçu la rédemption, c'est-à-dire que Christ est mort pour nos péchés, maintenant nous devons accepter une autre vérité. Sinon, on ne va jamais y arriver. Et je voudrais en parler en parlant de Romains 6. Je ne peux pas faire un exposé sur Romains 6. J'accompagne une jeune sœur et je lui dis, pour son baptême, et je lui dis, écoute, lis, relis, essaye de comprendre, pose tes questions sur Romains 6. Et Romains 6, c'est compliqué, mais finalement, je voudrais vous rendre simple. Et je vais le rendre simple parce que le temps nous manque, mais comme ceci. Un péché n'existe pas indépendamment d'une personne. Juste ou vrai ? Juste est vrai ou faux ? C'est juste. S'il y a un péché, c'est parce que je l'ai commis, ou vous l'avez commis. Quand Christ est allé à la croix, il n'a pas juste pris nos péchés, les a posés sur la croix, c'est juste ça. Mais il nous a emmenés sur la croix. Et nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ. Et ressuscités avec lui. Pourquoi vous acceptez que Jésus est mort pour vous sur la croix et vous n'accepteriez pas cette vérité fondamentale si vous voulez marcher dans la plénitude de l'Esprit? Fondamentale, c'est-à-dire que Vous avez, quand Christ était là, sur la croix, et vous y étiez aussi. Il faut l'accepter par la foi. Tout à l'heure, je vous ai dit, Satan ne meurt pas. Le monde ne meurt pas. Le péché ne meurt pas. La loi ne meurt pas. La stratégie de Dieu est autre. Vous pouvez essayer de combattre contre Satan. Vous n'y arriverez pas. Contre le monde, vous n'y arriverez pas. C'est comme un alcoolique qui prend une bouteille là et qui dit « je ne vais pas y toucher ». Je m'approche, mais je ne vais pas la... Je la regarde juste, n'est-ce pas ? Plus vous allez essayer de combattre votre péché, moins vous y arriverez. La stratégie de Dieu, c'est qu'il nous a placés en Christ, quand Christ était mort sur la croix, et dans sa résurrection, nous sommes ressuscités avec Christ. Vous connaissez Romains chapitre 6 et... mais Romains 7, chapitre 6, je voudrais juste vous donner deux versets. Romains chapitre 6, eh bien, nous avons été... nous avons, verset 5, nous avons été identifiés, c'est-à-dire dans la mort de Christ et dans sa résurrection, et que notre vieil homme a été crucifié, a été, c'est une chose faite. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça change tout de le savoir. Je vous ai dit, Satan ne meurt pas, le monde ne meurt pas, le péché ne meurt pas, la loi ne meurt pas. Mais c'est nous qui sommes morts pour Satan. C'est nous qui sommes morts pour le péché. C'est nous qui sommes morts pour le monde. C'est nous qui sommes morts pour la loi. Maintenant, le verset que je voudrais que vous laissez pour Romains 6, c'est celui-là. Verset 11. Où il est dit, « De même aussi, puisque... les choses sont ainsi, et que vous êtes mort avec Christ et ressuscité avec Christ, acceptez cette vérité et vivez selon cette vérité, c'est-à-dire comme mort au péché, mort à Satan, mort à la loi, mort au monde. » Et moi, dans ma jeunesse, j'ai été enseigné comme ça. Et c'était bon, sauf que c'était que la moitié. Et ça ne marche pas si c'est la moitié. Regardez bien. On va dire ici, il y a Satan, il y a le monde, il y a trois entités, n'est-ce pas? Trois personnages, on va les imaginer, ils sont là, et puis quatre, Satan, le monde, le péché et la loi. Et moi, je prends le verset 11 et je dis, je suis mort au péché, je suis mort à toi, Satan, je suis mort. Mais finalement, ils s'approchent, mais regardez, je suis tourné vers eux, je suis bien vivant pour eux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je déclare quelque chose, mais finalement, je suis carrément vivant pour eux. Ce n'est pas ce que le verset dit. Le verset dit quoi? Regardez la deuxième partie. Il faut tout lire. La deuxième partie, mais pour vivant à Dieu. Ah, je comprends ça. Je comprends ça. Je fais demi-tour. Père, pour la journée d'aujourd'hui, je me rends vivant à toi. Je suis là vivant en Jésus-Christ. Je suis ton enfant bien-aimé. Je suis tellement content de te connaître. Je suis tellement content d'être dans tes bras. Je m'approche de toi. Comment vois-tu les choses? Et puis, est-ce qu'on peut passer du temps ensemble? Et là, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je tourne le dos. Je me considère comme mort. Parce que d'abord, je me considère comme vivant. Et ils peuvent s'approcher, n'est-ce pas? Et ils vont s'approcher. Et ils vont accuser. Et ils vont être contre moi. Bien sûr. Mais moi, je m'approche du Seigneur. Je m'approche du Père. Je me blottis dans ses bras. Je vis cette vie d'intimité. Et eux, ils vont s'approcher jusqu'où? Nous sommes en Christ. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et là, il ne va pas s'approcher de la présence de Christ. Souvent, enfin, non, pas souvent, mais longtemps, j'ai considéré, fausse théologie, mais j'ai considéré que le Seigneur était là et que Satan, petit petit, était là. Et moi, j'étais entre les deux, couvert par le sang du Seigneur, bien sûr, parce que quand même, sécurité. Mais j'étais tiraillé comme ça, là. Puis tout à coup, je me suis dit, mais c'est pas juste, hein. Je suis où? Je suis où? En Christ, je suis en lui. Et le méchant ne me touche pas. Il ne peut pas s'approcher. Satan est peut-être l'ennemi le moins à craindre. Le moins à craindre. Vous avez beaucoup plus à craindre avec le monde et avec la chair. C'est-à-dire votre ancien style de vie. Et la loi aussi, hein, parce que nous on aime bien la loi. On aime bien, parce que la loi, ça nous donne de la sécurité sans la relation. Je suis OK, propre sur moi. J'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse. Dieu doit m'accepter. Ce n'est pas comme ça qu'il marche. Je voudrais donc vous laisser ces deux versets dans Romains 6. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais si vous vivez ces choses-là, si vous savez comment vous rendre vivant à Dieu, c'est la clé. C'est la clé. C'est la vie. On est dans la vie, là. Ce n'est pas théorique. Non, chapitre 7, je voudrais vous laisser cette histoire un peu compliquée de l'apôtre Paul qui dit, il y avait cette dame-là qui était mariée avec Monsieur Loi. Et elle voulait plaire à Monsieur Loi. Elle faisait tout ce que Monsieur Loi demander, c'était son mari. Elle faisait tellement, tellement des efforts, mais lui n'était jamais satisfait. Monsieur Loi, elle a fait le ménage partout, 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 partout pour qu'il soit satisfait. Monsieur Loi arrive, son mari, il regarde, et puis il voit, il passe son doigt au-dessus de la porte, là. Et il dit, oh, il y a de la poussière. Elle est découragée. Elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Nous ne sommes pas capables d'être à la hauteur de la loi. Pas capables. La loi révèle notre incapacité. Et là, c'est là où l'image de Paul change. Parce que la loi ne meurt pas. C'est elle qui meurt. Mais l'idée, c'est qu'elle se remarie. Vous voyez, vous connaissez la Romains 7. Si vous ne connaissez pas, relisez ça. Mais son image va jusqu'à un bout. Et puis après, il dit, mais tout à coup, cette femme se marie avec Monsieur Grâce. Là, c'est un charmant mari comme toutes les femmes voudraient avoir. Il n'y a pas d'exigence. Il l'aime, il est dans la relation. Il est là, présent, il l'entoure et puis il n'oblige de rien. Et là, ça se passe bien. Elle est satisfaite. Elle est reconnue comme beaucoup de valeur. Et puis, à un moment donné, elle fait le ménage et puis elle voit la liste de tout ce qu'elle devait faire avant quand elle était mariée à Monsieur Loi. Elle regarde cette liste. Puis elle s'aperçoit, elle dit, en fait, avec Monsieur Grâce, j'en fais beaucoup plus. Pourquoi? Parce que c'est Monsieur Grâce. C'est notre époux. C'est Christ lui-même. Il est venu, comment il est dit dans le prologue de Jean, de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu, et grâce, sur grâce, sur grâce, sur grâce, de sa plénitude. Nous sommes dans la grâce. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout faire, tout est à vous, vous pouvez tout faire. Allez pécher, allez commettre le mal. Pardon ? C'est ça. Vous n'allez pas le faire. Pourquoi ? Parce que vous êtes tellement aimé. Et puis vous êtes tellement dans la grâce. Mais vous n'avez pas envie. Ok, ça c'est le chapitre 7. Bien sûr, c'est très succinct, n'est-ce pas? Mais si nous comprenons ce, si nous comprenons cela, eh bien, nous comprenons maintenant que nous avons été déliés de la loi étant morts. C'est nous qui sommes morts à la loi. Vous comprenez? C'est toujours le même principe. Quand Christ était à la croix, nous sommes morts à la croix. Si vous n'acceptez pas cette vérité, vous vous tirez une balle dans le pied. Vous n'arriverez pas, mais vous arriverez de la, vous arriverez à comprendre cela avec difficulté, en fait, par une des expériences difficiles. Mais là, la parole, elle est claire. Et ayant, étant mort en ce que nous étions tenus de faire, en sorte que maintenant nous servons en nouveauté d'esprit et non pas en vieillesse de l'être. C'est l'histoire du bouquet de fleurs de tout à l'heure. Si vous faites les choses parce que c'est écrit dans la Bible, ça n'intéresse même pas Dieu. C'est bon, c'est pas mauvais, n'est-ce pas? Ce qu'il veut, c'est notre cœur. Je ne sais pas comment dire ça. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je vais vous laisser encore ces versets-là. Romains chapitre 8. J'ai souvent des hommes qui viennent me voir. Ils viennent me voir un peu comme Nicodème la nuit. Parce qu'il y a la honte est attachée à leur personne. Parce qu'ils ne peuvent pas se sortir de la pornographie. Des hommes chrétiens, un homme est venu me voir et il dit, je viens de me rendre compte que je me marie dans 10 jours et je suis prisonnier de la pornographie. Et il commence à pleurer. J'ai dit, ben, tu fais bien de pleurer parce que ton mariage ne va rien changer et tu vas perdre ta femme. Combien d'hommes, jeunes hommes, je connais des chrétiens, des hommes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont été utilisés par Dieu pour faire des grandes choses, des jeunes gens, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, ils sont par terre, blessés à mort, peut-être pas à mort, mais blessés, immobiles, impossibles de se lever sur leurs pieds à cause de la pornographie. La pornographie, nous sommes dans un monde où vous, les jeunes, c'est pas facile, parce qu'elle est à portée d'un clic. Mais ces jeunes gens auxquels je pense ont tous divorcé à cause de cela. C'était insupportable pour leurs épouses. Alors, ils me viennent me voir, ils me disent, comment est-ce que je peux être libéré? Et parfois, je lis Romains chapitre 8 et je pose la question. Est-ce que tu es en Christ? Réponse, oui, je suis en Christ. Bon, bonne chose. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour toi. Tu es en Christ. Mais maintenant, il faut que tu comprennes une deuxième chose. Ça, c'est déjà, là, il respire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Mais la deuxième chose, dit Paul, la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus, qui est aujourd'hui dans le Christ Jésus, et toi tu es dans le Christ Jésus, nous a libérés, affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que tout va nous tirer vers le bas. Mais la loi de l'esprit dans le Christ Jésus est plus puissante que la loi du péché et de la mort. Une comparaison. J'ai piloté des avions pendant 15 ans et à chaque fois, c'est magique. Un tas de tôles ne peut pas voler. Mais la pesanteur tient l'avion cloué au sol. Mais il y a une autre loi, la loi de l'aérodynamisme. On ne va pas expliquer ça ce soir. Mais tout à coup, vous mettez les moteurs, l'avion avance, et à un moment donné, par la foi, Parce que le constructeur vous dit qu'à telle vitesse, quand tu tires le manche, l'avion va décoller. Et ça marche! C'est magique. Et nous, il nous faut expérimenter ça. Expérimenter que quand nous sommes dans... quand la loi du péché et de la mort nous tient au sol, il existe dans la loi de vie de Jésus-Christ, cette loi qui nous fait décoller. Mais la condition, c'est de croire la vérité. Et vous allez voir la puissance de l'esprit. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Parce que la pornographie, ça fait très plaisir. Sinon, on le ferait pas. Et ceux qui font la pornographie, les psychologues qui ont accompagné les fabricants de films, ont très bien saisi comment Dieu a créé l'homme visuel, mais pour les enchaîner. Donc, il nous faut trouver, si vous voulez laisser la drogue, laissez la pornographie, laissez toutes sortes d'addictions. Il vous faut trouver un plus grand plaisir que cela. Sinon, vous n'allez jamais lâcher. Le moteur du changement, un des moteurs du changement, c'est le plaisir. Mais le deuxième moteur de changement, c'est la souffrance. Je m'explique. Pour comprendre qu'il y a en Christ, dans Christ, la loi de l'esprit de vie qui est plus forte que la loi qui nous retient par terre, sur le sol, la loi de la pesanteur, la loi du péché et de la mort, on peut le comprendre avec nos têtes. Mais pour que nous l'expérimentions, souvent, on est obligé de passer dans la souffrance. Et c'est parce que nous crions au secours, « Père, aide-moi, je t'en supplie, délivre-moi. » Et là, nous sommes au bout de nos forces. Au bout de nos forces. Et là, il va nous montrer la loi de l'esprit de vie qui est dans le Christ Jésus. C'est le fils prodigue, n'est-ce pas? Quand il n'y avait plus le plaisir du péché, il a dû descendre pour finalement rebondir, quoi. Quand il a touché le fond, il est revenu à ses sens. Quand nous, on est désespérés de nous-mêmes et de nos propres forces, alors on va s'intéresser à la vérité divine et on va l'accepter. Enfin, ça s'est passé comme ça pour moi. Et pour beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Il nous faut d'abord être désespérés de nous-mêmes. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que la relation a été cassée. La relation avec le péché a été cassée. La relation avec cette loi de la mort, du péché et de la mort. Et puis, j'ai nommé Romains 12. Romains 12, c'est le verset 1 et 2 que je voudrais vous laisser ce soir. C'est à cause des compassions. Romains 12, à cause des compassions de Dieu. Eh bien, nous, à cause de son amour, nous présentons nos corps et comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui est notre service intelligent. Ne vous conformez pas à ce siècle, le siècle du monde, qui vous propose toutes sortes de choses pour vous enfumer et vous détourner de cette délice de la relation avec le Père. Nos intelligences doivent être renouvelées et renouvelées par la vérité. Les ressources que nous avons vis-à-vis de ces quatre entités, j'ai nommé Galates 2:20. C'est un verset vraiment un verset qui est tellement important parce que ça rappelle que nous avons été crucifiés avec Christ, j'ai été crucifié avec Christ. C'est pas l'apôtre Paul, l'apôtre Paul le dit pour lui-même, mais nous le disons pour nous-mêmes, j'ai été crucifié. Si vous n'acceptez pas cette vérité, ça veut dire que vous n'êtes pas ressuscité pour lui. Et là, on va parler, il parle de quelque chose que j'ai mentionné hier. C'est que Christ n'est pas seulement à côté de moi, il est en moi. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. C'est une nouvelle personne, c'est cet être créé par Dieu, racheté. C'est pas réparé, c'est tout nouveau. De telle manière, Christ vit en moi. De telle manière que ce que je vis dans mon corps, dans mes circonstances, je le vis dans la foi au vivant. Dans mes circonstances. Avant, je vivais seul. Avant, je vivais seul. Maintenant, Christ est venu nous habiter. C'est la, pour moi une tellement grande vérité qui est la base de notre vie chrétienne. Nous ne sommes plus seuls. Christ habite en nous. Nous sommes des êtres habités. Vous allez chez le boulanger, vous êtes habités. Et vous transpirez Christ. C'est la vérité. Vous dites, bon, pas trop quand même. Ça dépend de... Bon. Mais vos circonstances, parlons juste une minute de ça. Est-ce que vous pouvez accepter que toutes vos circonstances que vous rencontrez seront trop difficiles pour vous? Il n'y a rien sans moi, dit Christ. Rien que vous pouvez faire par vous-même. Mais moi, je suis en vous. Isabelle, si on te demande de jouer du violoncelle, de jouer Mozart avec Dieu, c'est bon pour Mozart ou quelqu'un d'autre? Beethoven. On va te demander de jouer Beethoven. Et tu nous joues Beethoven et on est émerveillés. Mais on dit, mais c'est quand même pas tout à fait ça. Tu pourrais aller travailler un peu plus et revenir dans 3 mois et elle vient ici, elle nous joue Beethoven. C'est mieux. Mais on va lui dire, oh, c'est pas encore Beethoven ça. Et fil en aiguille, on lui dit de revenir, elle revient. Elle va jamais y arriver. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas Beethoven. Elle ne pourra pas jouer Beethoven. Elle essaiera de jouer Beethoven. Pour ressembler à Christ, nous avons sa vie. Il faudrait que Beethoven entre en elle pour qu'elle joue Beethoven. Ça va? Et Christ est en nous pour jouer sa partition. Et nous vivons de sa vie. C'est ça notre problème. Christ a donné sa vie pour nous. Mais Christ nous a donné sa vie pour que nous la vivions. Deux notions de la croix. Ça veut dire quoi? Pour moi, Bertrand, quand je comprends ce verset de Galates 2:20, que Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi dans mes circonstances et je peux avoir confiance en lui. Je lui pose cette question que certains d'entre vous, vous l'avez déjà entendue. Seigneur, on fait comment tous les deux? En posant cette question, je suis en train de développer un sens spirituel que je n'avais pas avant. Seigneur, comment tu vois les choses? On fait comment? Avant, j'aurais fait ça. Comme ça. Principe de la chair. Par moi-même. Par mes forces. Ça ne marche pas. Maintenant, Seigneur, j'attends. Comment tu vois les choses? comme il est vivant, eh bien, il développe mes sens spirituels. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que ça prend du temps, c'est une vie. Mais c'est ça la vie avec Christ. On continue si vous voulez, parce que le temps passe et on va passer aux différents moyens qui sont utilisés par Satan pour nous détourner de notre destinée, et c'est-à-dire d'être celui ou celle que Dieu veut que je sois. Il n'y a pas de plus belle destinée que d'être dans la volonté de Dieu. Je me suis surpris à dire dans différents voyages que j'ai fait dernièrement, en rentrant, dit « Je suis exactement là où le Seigneur me veut. Je suis exactement dans ma destinée sur la terre. » Et c'est un bonheur. Mais Satan ne veut pas ça, n'est-ce pas? Et donc, il va plusieurs points. Il va nous tenir dans l'ignorance. Parce que si nous ne savons pas que nous sommes libres, nous allons marcher comme des esclaves. Si nous ne savons pas que Dieu ne nous a pas donné un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption, nous continuerons à vivre dans un esprit de servitude. Et dans la crainte, dit l'apôtre Paul. Donc, en nous tenant dans l'ignorance, et ainsi en nous maintenant dans des forteresses mentales, dans des forteresses spirituelles. J'ai proposé ce verset de 2 Corinthiens 5:18, on l'a parlé hier. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses vieilles sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé comme vieille chose? Il s'est passé que nous nous sommes forgés des forteresses mentales. L'apôtre Paul en parle dans 2 Corinthiens chapitre 10. Une forteresse, c'est parce que on avait peur. C'est à la suite d'un traumatisme. On va se forger des forteresses pour se protéger des autres, par exemple. Si on a été, selon nos personnalités, si on a été traumatisé par quelqu'un, eh bien, on va se méfier et on peut se réfugier dans un certain mutisme. Enfin, on a nos stratégies, n'est-ce pas? Chacun différent, mais on établit des stratégies. C'est comme des forteresses. On a peur, donc on se protège. On a honte, donc on va faire quelque chose pour ça. Une femme qui a été abusée, eh bien, même s'il n'y a pas eu de parole, il y a des caractéristiques de l'abus, et elle va s'enfermer dans ses forteresses en disant « Je suis nul, je suis sale, je ne peux rien, c'est de ma faute, c'est un tatatatat, il y a beaucoup de choses. » Et finalement, elle est là. La forteresse est devenue prison. Toutes ces choses vieilles sont passées. Encore faut-il les nommer et y renoncer. Toutes choses sont faites nouvelles. On prend ces vieilles choses, on les met de côté, on les remplace par des choses nouvelles. Il vous faut entrer dans le détail de ces choses. Et là, il est 10h moins 10, moi je ne peux pas rentrer là-dedans. Mais pensez à ces forteresses, la manière dont on a vécu notre vie sans Dieu, et parfois avec Dieu, n'est-ce pas? On s'est forgé ces forteresses. Et en fin de compte, le traumatisme, bon, on ne peut rien changer au traumatisme, c'est l'histoire. Mais la forteresse, c'est les croyances qui découlent du traumatisme. Est-ce que vous me saisissez? Autre chose, le diable nous tient ou utilise le moyen de la tromperie. De la tromperie. Et j'ai cité 3. Donc, il nous aveugle. Il aveugle l'intelligence des non-croyants, mais il influence nos pensées. Et j'ai cité 3 exemples bibliques. David et le recensement du peuple. Il savait que Dieu ne voulait pas. Qu'est-ce qui a fait qu'il l'a quand même accompli cela? Alors que Joab, qui n'était pas toujours spirituel, lui a dit « Tu ne peux pas le faire, ne le fais pas, ne le fais pas. » Il n'a rien voulu savoir. Il l'a fait. Il a utilisé. Il n'a pas écouté son frère. Il a usé de sa, de son autorité et il l'a fait. C'est le diable est venu là et lui a instillé une pensée. Et lui, au lieu de prendre cette pensée et de la mettre à sous l'obéissance, bon là, si on, on transpose l'obéissance de Christ, il a gardé cette pensée. Et cette pensée s'est développée, il a, s'est approprié cette pensée, elle s'est transformée en action qui s'est transformée en péché. Vous connaissez Judas Iscariote, le diable lui a donné cette pensée de l'argent. Vous connaissez Ananias, comment Satan a-t-il pu, comment il est dit, remplir ton cœur. Les pensées, juste une phrase pour les pensées que nous avons. Quand vous êtes au culte, on rompt le pain et vous avez une pensée obscène qui vous vient. Je sais que ça se passe parce que j'ai eu suffisamment d'entretiens avec des personnes qui peuvent dire des choses comme ça. Des pensées qui nous font honte, n'est-ce pas? Mais les pensées qui nous viennent ne sont pas nos pensées jusqu'au moment où vous l'acceptez, cette pensée. C'est vous qui êtes le contrôleur de vos pensées. Comme des avions qui viennent à Roissy, ils n'atterrissent pas n'importe comment. Et c'est la pensée qui vous vient. Vous avez le choix de l'accepter ou de la refuser. Il y a des pensées lancinantes, on est bien d'accord. Mais on va continuer à les refuser. C'est ce qu'on va appeler tout à l'heure, je vais vous en parler, mais je ne sais pas si on aura le temps, les dards enflammés du méchant qui vient pour nous enflammer. Et nous, on est là, mais on ne sait pas ce qui se passe. Rassurez-vous, les pensées qui viennent ne sont pas vos pensées. Moi, je me suis fait souvent beaucoup de soucis pour toutes ces pensées que je pouvais, qui me traversaient, jusqu'au moment où de comprendre que ces pensées ne sont pas les miennes, sauf celles que je vais accepter. Donc je prends ces pensées, je dis, Seigneur, on fait quoi avec ça? Et je le sais très bien au fond de moi-même. Exit. Par la tentation. La tentation, et on est tous tentés, et on est tentés jusqu'à la fin de notre vie. On va demander aux anciens, n'est-ce pas? Et l'apôtre nous dit, dans 1 Corinthiens 10, il nous dit que aucune tentation, ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle et qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue pour que vous puissiez la supporter. Alors, tentation, épreuve. La tentation, c'est répondre à nos besoins profonds d'une autre manière que par cette intimité avec le Seigneur. Mais le problème de la tentation, c'est que quand c'est répété, alors, je vais dire que alors, c'est moi le problème. Et je ne peux pas, et c'est vrai qu'on ne peut pas, mais le problème, c'est moi. Non, ce n'est pas vous le problème. C'est votre méthode ou ce que vous mettez en mouvement, comment tu dis ? En mouvement pour vous placer par rapport à cette tentation. Dans la tentation, c'est la première pensée qui compte. C'est la première pensée. Si vous l'acceptez, ça va être difficile. On sait ça, n'est-ce pas ? Par expérience. On ne peut pas baisser la garde. Pourquoi ? Parce que nous sommes la cible de Satan. Il faut accepter ça. Il n'y a pas de repos sur cette terre. Il n'y a aucun lieu ni aucun moment où on peut se dégager de l'armure complète de Christ, de Dieu, dont Lucien et Pierre Audon vont parler demain. Je vais un peu plus loin. Ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours de l'opposition. Il y aura toujours de l'accusation. Il y aura toujours de la condamnation. Et il y aura toujours quelque chose pour nous séparer, pour essayer de nous séparer de l'amour de Christ. C'est Romains chapitre 8. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire, quelqu'un est contre nous. La réponse, Dieu est pour nous. Qui intentera accusation contre les élus de Dieu? Réponse, c'est Dieu qui justifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez monter à la Cour suprême et m'accuser devant le juge. Le juge est mon père. Vous ne pouvez pas aller plus haut, c'est ça la réponse. Mais il y aura toujours ces accusations. Satan sera toujours contre nous. Il y aura toujours ces accusations. Qui est-ce qui condamne? Réponse. C'est Christ qui est mort, qui est aussi ressuscité, qui est aussi assis à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Ça, c'est la réponse. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Tribulation, il va y en avoir. Ou persécution, il va y en avoir. Il y en a. Ou famine, il peut y en avoir. Ou détresse, ou péril, ou épée. Nos frères coptes qui se sont fait décapiter pour l'amour de Christ. Nos frères syriens. Nos frères chinois qui sont dans des églises souterraines, secrètes. Selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous avons été estimés des brebis de tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, notre Seigneur. Et le temps nous manque. Mais vous avez ces quelques feuilles. Écoutez, il y a le cinquième point est très important parce que Satan s'infiltre dans nos vies par des choses, par des portes que nous laissons ouvertes. Il y en a cinq que j'ai nommées. La colère, ce sont des portes d'accès. Et nous n'ignorons pas ces desseins, les desseins de Satan, nous dit l'apôtre Paul. 1. La colère non réglée. Personne ne dit rien, donc ça ne vous concerne pas. Le non-pardon. C'est la calamité dans les églises. Le commérage, le manque de maîtrise de soi dans les relations sexuelles. Et je parle aux jeunes, non, tout le monde n'a pas de relation sexuelle avant le mariage. Tout le monde ne le fait pas. Et le cadre divin, c'est l'attente du mariage pour avoir des relations sexuelles. Et dans le cadre du mariage, il y a certains éléments qui sont dits dans 1 Corinthiens chapitre 7. De la jalousie amère et un esprit de querelle. Maintenant, écoutez bien. Je voudrais juste parler de dire que nous ne pouvons pas être possédés. C'est-à-dire, posséder, c'est-à-dire appartenir, comme on possède quelque chose, n'est-ce pas, appartenir à Satan. Il ne peut pas, parce que nous sommes nés de Dieu, mais il peut nous, mais nous pouvons subir des influences démoniaques, et nous en subissons constamment, j'en suis certain, on ne s'en rend pas toujours compte. Laissez-moi juste vous dire, parce que j'ai noté 6 points par rapport aux flèches. Demain, je pense que nos frères vont développer cela, mais je voudrais juste vous dire ça. Il y a un bouclier de la foi, et parce que Satan vous envoie des flèches constamment, constamment, constamment. Le bouclier de la foi va vous aider à ce que les flèches ne fassent pas leur travail. Le premier point, il nous faut identifier la flèche. Le deuxième, et parce que c'est une flèche pour nous déstabiliser. Le deuxième point que je vous propose, c'est d'accepter, de croire que cette flèche ne peut être anéantie. Elle ne va pas faire son travail. Troisième point, la seule manière de se protéger, c'est de connaître la vérité et de croire cette vérité. La quatrième chose, c'est la foi en la vérité, et ça va nous délivrer de ces flèches. De connaître ces vérités, il nous faut nous baigner, nous être saturés de ces vérités-là, de telle manière qu'on puisse réagir au bon moment. Et cinquièmement, il faut que nous puissions nous les approprier. Pas juste adhérer à la vérité, à ces vérités, mais se les approprier. Si je vous dis, vous êtes enfant de Dieu, ça vous fait quelle émotion dans votre cœur? C'est ça. S'approprier les vérités, c'est que ça résonne dans nos cœurs et ça produit chez nous beaucoup de joie. Et sixièmement, je termine par ce point-là, avoir le réflexe de se saisir du bouclier au bon moment. C'est un réflexe. Par le fait de l'habitude, les hommes mûrs, les hommes faits, les hommes et les femmes, par le fait de l'habitude, ils ont les sens spirituels aiguisés, affûtés pour reconnaître le bien et le mal. Et faire le bien, évidemment. Voilà, je vous laisse avec la conclusion. Je ne peux pas le faire, c'est dommage. Mais c'est pas grave. On peut se mettre debout.